Voilà, donc il y a un certain nombre d'années, je suis née. Et je suis née en bonne santé. J'étais un beau bébé, je suis née par césarienne. Il paraît que j'étais splendide, toute rose, bien belle. Et quand j'avais 4 mois, j'ai commencé à avoir une petite, derrière la tête, à la nuque, j'ai commencé à avoir une espèce de bouton qui a commencé à se répandre. Et mes parents m'ont emmenée chez les médecins à l'hôpital. Et en fait, c'était un staphylocoque doré. Et puis, donc, ça a commencé à grossir assez vite. Donc, j'avais 4 mois, j'étais vraiment un petit bébé. Et on m'a mis sous antibiotiques pendant un mois. Rien n'a fait, ça se propageait. 2 mois, rien n'a fait, ça se propageait. Au bout du 3e mois, les médecins à Nîmes, parce que je suis née à Nîmes, je suis du Sud, les médecins ont dit à mes parents, on ne peut plus rien faire à Nîmes. Il faut l'emmener voir des grands spécialistes, mais ça se répand, on ne sait pas pourquoi le staphylocoque doré est résistant à tous les antibiotiques. Donc, juste à cette période-là, peut-être quelques mois, une année avant, mes parents n'étaient pas chrétiens du tout. Ils étaient croyants comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'ils allaient à l'église pour les mariages et pour les enterrements. Mais s'ils croyaient en Dieu, ils ne savaient pas du tout qui était Dieu. Donc, la sœur à ma maman, quelques mois avant, avec son mari, se sont convertis. C'était les premiers de toute notre famille, que ce soit du côté de mon papa ou du côté de ma maman. Il n'y a jamais quelqu'un qui avait vraiment connu Jésus ou donné sa vie à Jésus. Donc, c'était les tout premiers. Et ils ont dit à mes parents, puisqu'il n'y a plus rien à faire, est-ce que vous voudriez emmener Nadine dans une église et il prie pour les malades au nom de Jésus et Jésus peut guérir les gens. Donc mes parents étaient désespérés, ils ne savaient même pas ce qu'était la foi en Dieu. Ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans une église. Et ce soir-là, il y avait une équipe de personnes américaines qui avaient, je pense, un ministère de guérison. Et mes parents m'ont emmené, il y a un homme. Donc c'est intéressant parce que c'est un Américain avec un ministère de guérison qui a prié pour moi. Sur le moment, il ne s'est rien passé. Mes parents m'ont ramené à la maison, ils m'ont mis dans le lit. Et c'est la première nuit depuis 3 mois où je ne pleurais pas. Il paraît que je ne dormais pas la nuit parce que j'avais vraiment très mal. Il fallait m'attacher les mains. Et j'ai dormi toute la nuit. Mais il y avait toujours la tête pleine de pus. Et c'était vraiment ouvert et en sang. Et le lendemain matin, quand ma maman m'a pris dans le lit, les croûtes étaient tombées. Ça s'était complètement cicatrisé. J'étais guérie. Donc mes parents ont continué à me donner les médicaments. Enfin, ma maman. Et ma maman a dit, OK, c'est les médicaments qui, au bout de 3 mois... ont agi en une nuit, et c'est pour ça qu'elle est comme ça, qu'elle est guérie. Et mon papa a dit, c'est Dieu, mais sans comprendre plus de Dieu. Et j'ai continué à grandir, donc on m'a emmenée à l'hôpital, il n'y avait plus de staphylocoque doré. J'ai toujours des cicatrices, ça c'est intéressant, parce que c'est la marque du miracle. Et puis on a continué à grandir avec mon oncle et ma tante qui habitaient à Lyon, qui venaient régulièrement et qui nous parlaient de Jésus. Mais on ne comprenait rien. C'était comme si c'était du chinois. C'était intéressant. Je trouvais que ça emmenait la paix quand on nous parlait de Jésus. Mais c'était comme si c'était du chinois, une histoire. On ne comprenait pas avec notre intelligence. Et puis mon oncle et ma tante me disaient régulièrement, tu sais, c'est Jésus qui t'a guéri. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne connaissais rien sur Dieu. On n'allait pas à l'église, on ne m'avait jamais parlé de Jésus. Comme mes parents, on était plus ou moins catholiques. À l'âge de faire le catéchisme, ma maman m'a demandé si je voulais le faire. Mon frère avait voulu, ma sœur avait voulu. Moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils m'ont laissé le choix. Je n'ai pas fait de catéchisme. Et j'ai grandi comme ça. J'ai eu une adolescence précoce. J'ai tout fait dans mon adolescence. J'aimais vivre la vie à 100%. J'étais passionnée. Donc j'ai commencé tout très 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 tôt. Et puis je me rappelle un jour, j'étais dans ma chambre et je ne sais pas pourquoi, alors que je ne croyais pas en Dieu, j'ai dit à Dieu, je suis plus forte que toi, c'est vraiment vrai. Je suis plus forte que toi, j'ai pas besoin de toi et je te demanderai jamais, jamais rien. Ok ? Je suis plus forte que toi, je te demanderai rien. Je crois que j'avais 14 ou 15 ans. C'est drôle parce que je me rappelle vachement bien. Et puis j'ai continué ma vie, tous les extrêmes, bref, tout ce que les jeunes peuvent faire. Je sortais beaucoup, j'aimais beaucoup les garçons, beaucoup, beaucoup. Et j'aimais faire la fête, J'ai fumé à partir de 11 ans et demi jusqu'à 20 ans. Bref, c'était vraiment très, très... comme un jeune, mais vraiment dans l'extrême, toujours. Et puis, donc j'ai dit ça à Dieu un jour. Et puis, la vie a continué. Et mon oncle et ma tante, à chaque fois qu'ils venaient nous visiter, ils nous parlaient tout le temps de Jésus. Et à chaque fois qu'ils partaient, ma tante, dans la voiture, elle pleurait. Elle disait à mon oncle, ça ne sert à rien de leur parler de Jésus. Ils entendent, ils sourient, ça leur plaît, ils disent que c'est des belles histoires, mais ils ne changent pas. Mais pendant 20 ans, ils ont prié pour toute la famille. Vraiment, pendant 20 ans, dans les pleurs, dans le découragement, mais ils ont décidé de prier pour toute la famille. Du côté de ma maman, c'était la sœur de ma maman. Donc moi, j'ai passé mon adolescence, j'ai dit ça à Dieu. Je ne savais rien sur Dieu, je ne savais rien sur Jésus. Même le petit Jésus, même Noël, je ne savais pas ce que ça représentait. Rien de rien. Et quand j'ai eu 20 ans, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le fruit des prières de mon oncle et ma tante. J'en sais rien pourquoi, j'avais dit à Dieu que je lui demanderais rien du tout, j'avais pas besoin de lui, j'étais vraiment autosuffisante, hyper orgueilleuse, hyper sûre de moi. J'étais même plus forte que Dieu, pour moi. Et à l'âge de 20 ans, je sais pas pourquoi, j'ai eu juste le désir, à un moment donné, j'avais un examen à passer, et j'ai dit, ok, je vais aller dans cette église où nous avons emmené quelques fois, et je vais demander à Dieu de m'aider. Je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est le Saint-Esprit. Donc j'ai demandé à ma cousine de venir avec moi. On était assises, il y avait un message d'évangélisation un dimanche après-midi. J'ai rien compris. Quand on n'est pas chrétien, je vous assure que le jargon chrétien, c'est du chinois. Donc j'étais dans l'allée, à ma chaise, j'écoutais, je ne comprenais rien. Et tout d'un coup, Jésus est apparu. Il n'y a personne qui le savait, il n'y a pas eu d'appel. D'un coup, Jésus était là. Et j'ai rencontré Jésus toute seule. Et ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Je l'ai vu, il était là. Et je ne peux même pas expliquer. Il y a eu un énorme chamboulement et ma vie a changé du tout au tout. En un instant, je ne connaissais pas Jésus. Je ne peux pas dire que je ne l'aimais pas parce que je ne le connaissais pas. En un instant, j'étais là, suffisante. En un instant, il est venu. Je l'ai rencontré, ma vie, mon cœur a changé. Alors ma vie n'a pas changé parce que c'est un long processus, mais je suis tombée amoureuse de Jésus en un instant. Et ma vie, c'est devenu Jésus. On n'a pas eu besoin de me dire que aller en boîte, faire la fête, coucher avec les garçons, fumer, c'était pas cool. J'ai vraiment eu une conviction. Et je suis rentrée d'une façon, je suis sortie passionnée, amoureuse de Jésus avec dans mon cœur, il n'y a que lui, je veux le servir. Je suis revenue à la maison, j'ai appelé mon oncle et ma tante, et je leur ai dit, j'ai rencontré Jésus. Ils pleuraient au téléphone. Ils ont dit, ça fait 20 ans qu'on prie, c'est pas possible. Ils étaient fous. Et donc, et puis, j'ai dit à ma maman, maman, est-ce que tu veux m'accompagner le dimanche d'après? Donc, ma maman a dit, ok. Elle est venue, elle s'est assise, elle n'a rien compris, il y a eu un appel. Elle s'est avancée, elle s'est convertie. Mon papa est venu une semaine après, il s'est converti. Ma sœur s'est convertie, mon frère s'est converti. Et toutes les sœurs à ma maman, du côté de ma maman, se sont converties. Donc, pendant 20 ans, mon oncle et ma tante ont prié. Et au bout de 20 ans, il y a eu la percée pour notre famille. Mais vraiment toute la famille. Et des conversions, pas juste des adhésions, mais une famille complètement transformée et passionnée pour Jésus. Mes parents avaient un business. Avant, quand ils n'étaient pas chrétiens, ils faisaient comme tout le monde. Ils faisaient du travail un peu au noir et tout. Du jour au lendemain, ils ont commencé à mettre leur vie en règle. Mais vraiment, on est devenu une famille passionnée pour Jésus. Moi, mes amis ne me reconnaissaient pas, ils m'appelaient. En plus, j'ai toujours été un leader. Et quand je ne connaissais pas Jésus, j'avais une grosse influence, mais c'était hyper négatif. J'étais vraiment pas un bon exemple. Mais en même temps, j'avais un énorme impact. Donc mes amis me connaissaient comme j'étais avant. Et en une après-midi, le soir, je les ai et je commence à leur parler de Jésus. Ils étaient juste, mais elle est devenue complètement fada. Et donc, voilà, c'est une histoire d'amour avec Jésus qui a commencé. Et souvent, ça me fait penser à l'apôtre Paul, où il ne connaissait rien, il était contre Jésus. Et c'est pareil, j'avais dit à Dieu. Et je voudrais vous encourager sur le fait que si vous priez, tout à l'heure, Manu disait, on ne sait pas, des fois, on est à ça, de la percée. Mais si mon oncle et ma tante n'avaient pas prié pour nous, pour notre famille, je suis hyper reconnaissante. parce qu'ils ont tenu contre toute espérance. Ils venaient, on répondait jamais, on faisait des beaux sourires. Et ma tante disait, mais c'est pire parce qu'ils sourient, ils aiment, mais ils se convertissent jamais. Mais à un moment donné, à cause des prières, on a pu recevoir la révélation de Jésus. Et là, d'un coup, c'était OK. Je peux dire que je l'ai vu. J'ai rien compris, mais je l'ai vu. Et en le voyant, il a changé ma vie en un instant. Et donc, à partir de là, on a commencé une vie mais complètement passionnée. L'église, c'était pas parce qu'il fallait aller. C'était, j'avais soif. J'allais à tout. Je voulais plus de Jésus. Donc voilà, ça a démarré très, très, très fort. Puis après, au bout de quelques années, donc c'était dans une assemblée de Dieu que je me suis convertie. C'est dans une assemblée de Dieu que j'ai été guérie. Et je me suis convertie dans une assemblée de Dieu. Et je suis restée de 1986 à... Et donc, j'ai marché avec Jésus, je l'ai découvert. Mais au bout d'un moment, je commençais à m'ennuyer. Parce que, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à m'ennuyer. Et je suis assez radicale. J'ai besoin d'être bouillante, ça c'est aussi c'est quelque chose en moi. Et puis j'ai commencé à m'ennuyer parce que je lisais que dans la Bible, Jésus faisait des miracles et j'avais envie de voir la manifestation de qui était Jésus. Et je ne la voyais pas beaucoup. Et puis j'ai commencé à crier à Dieu et dire « mais je suis sûre qu'il y a plus et aussi plus pour ma vie ». Et puis il y a eu le vin nouveau qui est arrivé en France, la révélation du cœur du Père. Et donc Pascal disait qu'elle a été à Mâcon. J'ai aussi été à Mâcon et j'avais vraiment une révélation de Jésus. Je l'avais rencontré, j'étais vraiment amoureuse, je le connaissais, c'était super. Mais Dieu le Père, je ne le connaissais pas spécialement, je savais qu'il y avait Dieu. Et j'ai été avec des amis à Mâcon et puis il y a un truc merveilleux qui m'est arrivé, c'est que vraiment Dieu m'a fait le cadeau de me donner une révélation de son cœur et de son amour inconditionnel. Et donc ça s'est passé, c'était fort, mais ce que ça a produit dans ma vie, c'est que j'ai commencé à connaître Dieu le Père, et pendant 6 mois après ce que j'avais vécu à Mâcon, c'était juste merveilleux, c'est que je ne priais pas, je ne pouvais pas prier, mais quand je fermais mes yeux, j'avais la tête de Dieu le Père qui était là et qui me regardait comme ça. Et j'avais rien à dire, juste je m'asseyais et j'étais là et je voyais sa tête. Je le vois toujours quand je ferme mes yeux. Et c'était juste un papa qui aime sa fille, mais c'est juste inconditionnel. Il m'aime parce qu'il a choisi de m'aimer. Il m'aime parce qu'il a juste envie de m'aimer quoi que je fasse. Et c'est ce même papa qui... J'ai oublié de dire tout à l'heure que quand j'ai dit dans ma chambre... Je ne te demanderai jamais rien, je suis plus forte que toi. Je sais très bien que Dieu a ri. Et qui s'est dit, haha, elle, je vais, et vraiment c'est ce que Dieu m'a dit, je vais la chasser et je vais l'attraper par mon amour. Parce qu'on pouvait me forcer à rien. D'ailleurs, même aujourd'hui, Anana, elle vit avec moi. On ne me force pas en général. C'est vraiment l'amour qui me fait changer. Et vraiment, Jésus savait ça. Dieu le Père savait ça. Et quand j'ai dit, je suis plus forte que toi, je ne te demande jamais rien. Je suis sûre et je le sais. Il a juste ri, il a dit, ah, elle, ça me plaît. Elle me plaît, mais je vais gagner sur elle. Pas avec la force, pas en la faisant capituler, mais je vais la poursuivre avec mon amour et je vais la gagner. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a poursuivie. Et je veux vraiment vous encourager. Je sais que souvent, quand il y a des parents qui disent, j'ai mon fils ou j'ai ma fille, et il ne marche pas vraiment avec Dieu, c'est difficile. Juste continuer à prier. Continuer à prier, continuer à parler les promesses de Dieu sur vos enfants. C'est ce que mon oncle et ma tante ont fait, ils ne savaient même pas que j'avais dit ça. Mais Dieu nous chasse parce qu'il nous aime plus que ce qu'on l'aime. Et il aurait pu dire, waouh, elle est orgueilleuse, elle ne me veut pas. Mais je suis sûre, il a été ravi de dire, elle, moi je vais la voir. Parce que je vais la chasser et que je vais l'attraper par mon amour. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il s'est présenté, il ne s'est pas présenté comme un juge. Jésus, il est venu. Et j'ai juste vu son amour. C'était juste, waouh ! Il a touché mon cœur. J'ai vu son amour et je suis tombée amoureuse de lui. Et à partir de là, tout a changé. Et quand Dieu le Père m'a... Pendant 6 mois, il riait sur moi. Je n'avais même pas à prier. C'était juste... Et sa joie a coulé. Et j'ai ri pendant ces 6 mois. Et c'était juste, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime. Ce qui fait que maintenant... J'avais pas de problème avec la culpabilité avant, mais après avoir vécu ça, je sais et je veux proclamer que Dieu le Père n'est jamais en colère et qu'il ne nous aime pas parce qu'on le mérite, qu'il ne va pas nous aimer plus parce qu'on va faire quelque chose de bien et qu'il ne va pas nous aimer moins parce qu'on va faire quelque chose de mal. Ok ? Il nous a aimés le premier. Quand on était pécheurs, quand j'avais dit que je ne le voulais pas, lui m'aimait et lui, il a décidé. Parce qu'il m'aimait et qu'il me voulait, il a décidé de me chasser. Et il a décidé de m'attraper avec son amour. Donc vraiment, si vos enfants, il est bon, c'est un bon papa, il sait comment nous attraper à chacun. Et c'est toujours avec de l'amour, c'est toujours avec des stratégies d'amour, c'est toujours avec son cœur. Ok ? Donc, voilà, je me suis convertie, j'ai vécu cette expérience de l'amour du Père, ça a vraiment changé ma vie, et j'étais après amoureuse de Dieu le Père, j'étais amoureuse de Jésus, après j'étais vraiment amoureuse de Dieu le Père. Et là, j'ai commencé à avoir des désirs de, ok, je sais qu'il y a plus, et je commençais à prier et dire, ok, Jésus, qu'est-ce que tu veux pour moi, pour la suite ? C'était très bien l'église où j'étais, jusqu'à un certain point, les enseignements sont très bons, mais j'avais l'impression que je devais entrer moi aussi dans quelque chose. Et puis, Dieu a commencé à me parler d'une école biblique en Angleterre. Et donc, je me suis mise en route, j'ai été prise. Et en 1998, je suis partie en Angleterre faire une école biblique. Je ne savais pas, je disais juste, il y a plein d'églises en francophonie. Jésus, pourquoi c'est l'Angleterre ? Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais aujourd'hui, je sais, avec la langue anglaise, je sais que ça fait partie de ma destinée. Donc, j'ai été en Angleterre. Je suis une fonceuse, je croyais que j'étais très forte en anglais. C'est pour ça que je me suis inscrite. Je me rappelle, je suis montée dans l'avion, l'hôtesse de l'air est passée, elle m'a posé une question, je me suis dit, tu comprends rien. Mais j'étais déjà dans l'avion. Je suis arrivée, il fallait que je téléphone à l'école biblique, j'ai appelé et je savais rien. En tout cas, je savais dire un petit peu, mais j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont dit avec l'accent anglais. J'ai dit, ok. Donc j'ai fait une année et demie, une année en Angleterre à l'école biblique, et là Dieu a commencé à me parler sur ma vie, a commencé à faire bouger des choses dans ma vie. Et au bout d'un an, j'étais prête à rester en Angleterre, j'aime beaucoup l'Angleterre, j'aime Londres énormément, mais j'ai prié, puis Dieu m'a ramenée en France, et j'ai des amis qui étaient pasteurs dans une église sur la Côte d'Azur qui m'ont contactée en me disant « tu es formée, tu as fait une année, est-ce que tu veux venir avec nous pour nous aider dans l'église ?» Donc j'ai dit « oui ». Et je suis partie sur la Côte d'Azur. L'église était à Fréjus, Saint-Raphaël, mais j'habitais un petit peu plus bas. J'habitais entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez, un super village qui s'appelle Grimaud. Au bord de la mer, j'avais une piscine dans ma maison, devant ma maison, terrain de tennis, des oliviers, des palmiers. C'était vraiment splendide. Et donc, j'avais un travail. Et puis, pendant 2 ans, j'étais dans cette église. C'était super, mais c'était une église où les femmes n'ont pas trop de liberté. Ou alors elles peuvent, mais jamais devant l'auditoire, en fait. Et j'avais vraiment des choses à dire. J'avais des choses à partager. Je savais certaines choses que Dieu avait sur ma vie. Mon appel, pas tout, mais certaines choses. Et puis au bout d'un moment, c'était bien, mais j'avais l'impression que Dieu m'avait mis dans un océan en Angleterre et que là, j'étais un poisson et qu'on mettait un verre dessus et que je commençais à... j'avais pas l'espace que Dieu voulait pour moi. Et j'ai prié, j'ai fait une prière et j'ai dit, Jésus, s'il te plaît, mets-moi dans la norme de ton appel. Mets-moi dans une église où le ministère féminin est libéré. Une église qui a à cœur les nations, une église apostolique, une église où il y a les 5 ministères. Et je sais plus, j'avais 5 points. Et... là, il y a eu, en 2 jours après, il y a eu des circonstances, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça serait trop long, et Dieu a complètement changé la direction. En fait, 2 jours après, je me suis cassée la cheville. Alors, je ne dis pas que c'est Dieu, ok ? Pas du tout. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça, mais Dieu l'a utilisé. Et j'ai eu des complications, j'ai été plâtrée, après j'ai eu des complications à l'os, et j'ai dû rentrer, je ne pouvais plus rester sur la Côte d'Azur. J'ai dû partir à Nîmes chez mes parents parce qu'il fallait que j'aie des piqûres, que je sois soignée. Et donc Dieu m'a mis à l'écart de la Côte d'Azur. Et pendant que j'étais à Nîmes, il a commencé à me parler de Guebwiller. J'étais venue une fois, je crois, à Mâcon, je crois que j'avais entendu Luc parler, mais j'avais des amis qui m'avaient dit à Guebwiller, c'est une église où il y a ci, où il y a ça, où il y a ça, où il y a ça. Et Dieu a commencé à me parler de Guebwiller. Et 3 mois après, j'ai mes des amis à Nîmes, les Portefeuilles pour ceux qui les connaissent, m'ont invité et ils ont dit, viens, on a des amis à te présenter. Et ces amis-là étaient des gens qui étaient dans cette église, c'était les serfs. Et on s'est retrouvés à un repas ensemble. Et voilà, la première connexion que j'avais, c'est qu'à Nîmes, Dieu avait emmené des gens qui étaient à l'église Josué. Et il y a eu cette connexion, et ils m'ont encouragée, enfin bref. Et puis, c'était de plus en plus fort, va à Guebwiller. Je ne savais pas grand-chose, honnêtement. Hein. Et je savais que c'était juste. Et en même temps, je disais, mais Jésus, je suis bien, c'est la première fois que j'ai un boulot. J'étais éducatrice, j'avais un super poste. J'avais une super maison, une piscine. Ceux qui me connaissent savent que j'aime l'eau et la piscine. Je faisais du tennis, je m'étais cassé la cheville en faisant du tennis et j'avais un terrain de tennis chez moi. Et puis, je disais, mais Jésus, c'est quand même dur. Je veux rentrer dans mon appel, mais en même temps, il va falloir que je démissionne et que je laisse tout. Et Jésus, je me rappelle très bien, Jésus ne m'a pas dit, il y a un feu rouge et il y a un feu vert. Ça, c'est bon et ça, c'est pas bon. Mais Jésus, il m'a dit, tu as le choix. Il y a le meilleur, c'est ton appel, ou il y a le bon. Mais quel que soit ton choix, je serai content et ça sera très bien. La seule chose, c'est qu'est-ce que tu veux pour ta vie ? Et j'avais fait la prière et ce que je voulais avant tout, c'était entrer dans mon appel pleinement, être où je devais être, pour être comme un poisson dans l'océan. Et donc, voilà, ça a été... Je me rappelle, je disais, mais Jésus, j'ai un super poste. Je vais le laisser, il va falloir que j'aille au Pôle emploi un jour et tout et tout. Et puis c'était juste, non, je veux le meilleur. Donc j'ai fait mes lettres, je me rappelle, j'ai fait mes lettres de démission. Quand on démissionne, on n'a rien, ok ? Donc j'ai fait ma lettre de démission, je me rappelle, j'ai envoyé à mon propriétaire, je laisse, je quitte dans un mois. On a loué un truc de déménagement, enfin bref, vous savez tout ce qu'il faut faire quand on déménage. Et les serres m'avaient mis en contact avec Huguette. Et donc voilà, les choses se sont faites, j'ai pris la décision de venir. Tous mes meubles ont été mis chez mes parents à Nîmes. Une porte s'est ouverte chez Huguette, donc j'ai pu être accueillie chez Huguette. Et début janvier 2000, j'étais dans ma voiture, j'avais quelques affaires, et je montais en Alsace où je n'avais jamais mis les pieds. Et quand on est du Sud, on ne sait pas où c'est l'Alsace, on croit que c'est l'Allemagne. On ne sait pas du tout où c'est. Je ne savais pas, je ne savais rien. J'ai pris ma voiture et je suis arrivée une nuit de janvier 2000 au château chez les serfs qui m'ont emmenée chez Huguette. Et ça faisait aussi plusieurs années avant même d'avoir été en Angleterre où je savais qu'il y avait une école de prophètes à Belfort. Et donc, du coup, Dieu m'avait parlé par rapport à ça. Donc, je venais et les premiers mois, j'ai fait l'école de prophètes avec les gens de Guebwiller. J'allais tous les jours à Belfort. Et donc voilà, j'ai vécu ça. Et puis en arrivant en janvier, j'ai contacté Luc et Manu. Je les ai vus. Je ne sais pas si tu te rappelles, Manu ? Non, ce n'est pas grave. Moi, je me rappelle. Et puis j'ai juste dit, voilà, je suis ici parce que Dieu m'a dit de venir à Guebwiller. Et puis Luc et Manu m'ont dit, c'est super, on priait pour que Dieu envoie des gens. On pense que tu fais partie de ces personnes-là que Dieu envoie. Sois la bienvenue. Prends du temps, prends quelques mois. Et puis, reste ici, fais l'école de prophète, connais les gens, et puis vois si c'est vraiment ici que Dieu... Et puis voilà, Dieu a confirmé, et donc depuis 2000, je suis ici. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que souvent, Dieu nous demande de faire le choix du bon ou du meilleur. Et je sais que Dieu ne m'avait pas dit que si je restais sur la Côte d'Azur, c'était mal, mais c'était juste... Il y a le meilleur, tu rentres dans ta destinée. Ça a un autre prix. Je vous assure que j'étais proche de ma famille, de partir dans le nord, dans l'est de la France. Au début, ce n'était pas évident, le temps qu'on se fasse des amis. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Je me rappelle, j'allais au boulot. Mes collègues, quand elles sortaient du boulot, elles disaient « je vais boire un café avec ma maman ». Moi, je loupais tous les anniversaires de ma famille, toutes les fêtes des mères, toutes les fêtes des pères. Et des fois, c'est difficile. Il y a vraiment un prix. Et le prix est différent. Mais en même temps, la récompense, et il n'y a rien de plus, pour rien au monde, on me donnerait tout l'argent du monde et on me dirait, tu peux repartir à Nîmes, je ne voudrais pas, je veux juste être où Dieu veut que je sois. Et donc voilà comment je suis arrivée en Alsace. Et c'est vraiment ici, quand je suis arrivée ici. Voilà, aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait trop long si je continue. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que des fois, on croit que on se retrouve d'un coup à être l'homme ou la femme de Dieu qu'on est appelé à être. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que chaque obéissance, chaque pas, chaque choix, chaque jour de marcher juste avec lui pleinement au jour le jour, c'est ça qui nous fait devenir qui on est appelé à être. Alors il y a une destinée sur notre vie, il y a un appel, mais on ne se retrouve pas d'un coup. Je ne suis pas aujourd'hui, je suis le fruit aujourd'hui de toute une marche, toute une obéissance, des choix, des choses que j'ai fait avec Dieu et des choix que j'ai fait avec lui et une marche que j'ai avec lui. Et quand je me retourne et que je regarde, il y a toute une progression, mais ça ne s'est pas fait. J'étais une Nadine en 1986 et d'un coup, je suis là aujourd'hui qui je suis. Okay, c'est notre marche. Ce qui compte, c'est de marcher chaque jour fidèlement, dans l'obéissance, dans faire les choix pour Dieu. Et comme ça, on rentre un jour. Ce qui compte, hier est passé, demain n'est pas encore là, c'est aujourd'hui. Vis à fond ce que tu as à vivre avec Dieu. Marche avec lui, fais les choix qu'il te demande de faire, choisis-le. Fais des erreurs aussi, ça fait partie, ok ? Il y a sa grâce. Quand on fait des erreurs, il n'est pas en colère. Il n'est pas en colère, il ne se met pas en colère, il n'est pas comme nous. Il continue d'aimer, il nous aime encore plus. Encore plus, si bien qu'il nous aime tellement que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Ok ? Et on se relève et on continue. Et c'est ça qui fait qu'on devient chacun, qu'on rentre dans notre appel et qu'on devient l'homme et la femme de Dieu qu'on est appelé à être. Ok ? Mais c'est vraiment l'obéissance et les choix et la marche avec Jésus tous les jours, tous les jours, tous les jours, qui fait qu'on rentre dans... On devient qui on est appelé à être. D'accord ? Il n'y a pas de formule magique. C'est une marche avec Jésus et c'est une passion avec Jésus et c'est un désir de toujours plus le connaître, d'avoir soif de plus, de savoir qu'il y a plus et de le croire et de croire ce qu'il dit, de vouloir vivre ce qu'il nous dit. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que pour beaucoup, depuis 2000, beaucoup connaissent ma vie ici, mais un jour peut-être que je pourrai témoigner là-dessus. Mais voilà, donc je veux vous encourager, persévérer, si vous avez pour vos familles, si elles ne connaissent pas Jésus, faites comme mon oncle et ma tante, comme ils ont fait pour nous. Si vos enfants ont mis Jésus de côté, ok, continuez juste à prier et croyez que Dieu n'abandonne pas, ok ? Dieu les chasse, Huguette, Dieu chasse ton fils et il va l'attraper par son amour. Amen.
J'aimerais rebondir sur le témoignage de Nadine. Alors en l'an 2000, quand le Seigneur t'a envoyé, c'est pour ça que c'est pas très clair dans ma tête, nous on passait une période très difficile, l'an 2000. C'était juste après le grand clash à l'école où on a perdu la moitié de notre équipe. T'arrivais juste là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me souviens pas, parce que quand je me souviens, mais... Et c'est simplement, je veux dire ça, c'est l'amour et l'humour du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure, il est jamais désespéré. Il n'est jamais découragé. C'est pas nous qui bâtissons, c'est lui qui bâtit. Et je crois que, Luc vous l'a déjà dit, le songe fondateur de cette église, donc on était en Oklahoma, hein, il y a eu des paroles, c'est pour ça que cette église n'a pas été fondée sur une bonne idée débussière. C'est vraiment Dieu qui nous a appelés. Et Luc avait dit, Seigneur, mais moi j'ai pas envie d'être pasteur, j'ai déjà une école à m'occuper, c'est bon quoi. Et la nuit, il a fait un songe. Il a vu une plateforme, donc ça c'était en 92, et il a vu vraiment les cinq ministères et il a vu la guérison qui descendait du ciel. Il y avait des gens de différentes couleurs et on voyait que ce n'était pas que des Africains, donc je pense que c'est plutôt des Latinos. Et il y avait cette grâce de Dieu qui coulait, la guérison qui coulait à flot. Et là il s'est réveillé en larmes et il a dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux, oui. Et pour ma part, par contre, c'était par rapport à l'école. Le Seigneur m'avait montré que l'autorité, elle venait par l'Église et qu'une école toute seule n'allait jamais survivre parce qu'on allait confronter des principautés, des dominations dans les lieux célestes et que c'est par l'Église que Dieu fait descendre son autorité et pas n'importe comment. Et là, à ce moment-là, on n'avait plus d'Église qui nous soutenait, ce qui fait que l'école était orpheline. Donc il y a eu la conjonction des deux, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Dieu a une intention et il bâtit. À nous de ne pas nous faire ravir, persévérons. Alors Nadine disait, Dieu n'est pas fâché, ça c'est ce qu'elle a vécu, mais je vous encourage à voir aussi ce que dit la parole, parce que pour ma part, il y a eu un temps où j'ai même cru perdre le salut, parce que je n'étais pas suffisamment fondée dans la parole. Mais depuis que j'ai vu le plan de Dieu pour nous, depuis la Genèse, qu'il a annoncé Jésus-Christ par les prophètes, qu'au travers de toutes les fêtes d'Israël, par le peuple juif, il avait préparé d'avance, parce que comme le disait Nadine, il nous regarde avec amour, et il a fait ce qu'il fallait pour nous reconnecter avec lui. Et ce n'est pas que notre péché n'est pas grave, il est grave puisque Jésus est mort pour ça, mais il a payé le prix et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour ça qu'on peut se relever quand on tombe. Et je vous redisais tout à l'heure ce passage qui dit « Le juste tombe souvent, mais Dieu le relève toujours. » Le juste, c'est quoi? C'est celui qui a compris que Jésus a payé à sa place. Eh bien oui, ça nous arrive encore de tomber. Eh bien oui, parfois on se fait avoir dans nos pensées. Mais si on le reconnaît et qu'on demande pardon, son sacrifice est plus que suffisant. Et je peux vous assurer que maintenant vous n'allez plus me faire démordre de ça. Donc, méfions-nous de nos impressions, de nos sentiments. « Oh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oh là là !» Alors c'est bien de dire que Dieu n'est pas fâché avec nous, mais c'est encore mieux si on sait exactement ce que Christ a accompli pour nous, parce que là on ne nous le volera plus. Et c'est pour ça que vous savez, quand il y a eu le vin nouveau, il y a eu tout ça, il y a eu un moment donné dans les églises de France, ceux qui disaient oui mais moi c'est la parole, oui mais moi c'est l'esprit, et Luc a toujours dit mais nous on veut les deux dans cette église, on veut l'esprit et on veut la parole, parce que la parole elle s'est faite chair au travers de Jésus-Christ et c'est par l'esprit qu'il nous rappelle tout ce qu'il a fait. Papa, moi, je veux te dire merci pour Nadine ce soir. Merci pour ce témoignage qui nous encourage, qui nous montre que tu règnes, que tu es Seigneur. Et ensemble, ce soir, nous voulons redire que c'est toi qui bâtis. Nous te bénissons parce que tu as uni nos vies ensemble, Seigneur, parce que toi, tu as your purpose, tu as tes objectifs. Et c'est des projets de paix et de bonheur, non seulement pour nous, mais pour cette nation, pour les nations, pour la jeunesse qui nous entoure. Et Seigneur, je te bénis encore ce soir pour l'école de guérison, pour tout ce qui se passe au niveau de la guérison, parce que c'est ton intention et c'est toi qui le fais. Et on te bénit pour ce que tu es en train de faire couler dans l'Église, et pas seulement dans l'Église, mais bien au-delà. Et Papa, tu fais de chacun de nous, tu veux faire de chacun d'entre nous ces canaux. Et Papa, je te remercie pour Nadine, pour vraiment ce bâtisseur qu'elle est. Je te bénis pour ce don de persévérance qu'elle a, de ténacité. Seigneur, ce caractère trempé que toi, tu lui as donné. Et parce que tu l'as placé, Seigneur, au milieu d'une équipe. Merci, Seigneur, pour ce don que tu lui as donné. Je prie encore que tu continues de l'élargir, de la bénir. Seigneur, de renforcer le Christ en elle. Et Seigneur, nous te prions pour les 5 ministères, parce que c'est ce que tu veux pour ce corps local. Oui, nous le croyons, tu fais de nous cette maison apostolique avec les 5 ministères, et nous les appelons ensemble ce soir. Et nous reconnaissons que c'est toi qui bâtis, Seigneur. Et je te bénis pour Alana que tu as envoyée ici, pour David et Angela. Seigneur, je te bénis pour ces gens que tu as envoyés d'autres nations. Je pense à Romulo et Emma. Seigneur, je te bénis parce que tu fais de nous cette église multiculturelle. Seigneur, parce que tu es ce Dieu bon qui bâtit, et nous te bénissons ce soir ensemble. Nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons ta grandeur, et nous te donnons toute l'honneur et toute la gloire dans le précieux nom de Jésus. Et Papa, nous bénissons Luc qui est à ton nom. Nous te prions de le fortifier. Et Seigneur, nous te prions, donne-nous cette sagesse pour bien bâtir. Et nous disons ensemble que nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et merci pour l'obéissance de Nadine. Hein, n'est-ce pas qu'il y a plus de joie à obéir qu'à faire des sacrifices? L'obéissance, ça apporte beaucoup de joie. Je vais vous rappeler encore ce soir les dîmes et les offrandes, avec joie. On se rappelle que ce que nous donnons, nous l'avons reçu. Et que vraiment, nous te bénissons, Seigneur, pour les travaux encore. Et nous voulons encore te bénir, Seigneur. Et nous voulons dire, ce n'est pas nous qui portons, mais c'est toi qui portes. Et nous appelons encore, Seigneur, tous ceux que tu appelles à bâtir dans ce lieu. Et Seigneur, nous voulons marcher avec joie à ta suite, dans le nom de Jésus. Et nous te bénissons pour ta provision. Amen.
J'ai juste oublié de dire, donc j'avais laissé une maison, un bon boulot et tout, et je disais, Jésus, je n'ai pas envie de devoir aller au Pôle emploi. Donc une fois que j'ai fini de faire l'école de prophète et que je savais vraiment, c'était clair que c'est ici que Dieu me voulait, Dieu m'a donné un super boulot. En externat, c'est difficile pour un éducateur de trouver un boulot en externat. J'ai été appelée, Dieu m'avait donné en même temps, il y avait deux portes, une au rayon de soleil à Guebwiller, tout près, où c'était de l'externat et c'était un CDI, ou bien à Mulhouse, dans un IMP de jeunes enfants, en externat, et c'était pour un mois. Et j'avais un contrat, un CDD et un CDI. Et dans mon cœur, c'était, je viens ici, c'est pour l'église. Je savais, c'était pour l'église. Et donc, j'ai fait le choix de prendre le CDD pour un mois. Parce que quand on travaille en internat et qu'on est éducateur, on travaille les soirées, on travaille les week-ends, c'est très difficile. Donc, je suis partie pour un mois et j'y suis restée 12 ans. Au bout de 2 ans, j'ai eu un CDI, j'avais un super boulot, Dieu m'a donné un super appartement à Souls, puis ensuite, super appartement où je suis, et un super boulot. Donc, j'ai rien perdu. Dieu m'a mis dans l'océan où il voulait me mettre, à la place où il voulait me mettre, mais il m'a redonné, et même bien plus que ce que j'avais laissé sur la Côte d'Azur. Voilà, je voulais juste...